colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Ce qui m'a été demandé par donc les organisateurs du colloque, trait à la guerre en plaine. Si on fait fond sur cette expression, voilà un sujet qui pourrait, au premier abord, du moins, nous sembler tautologique. La guerre appelle, j'espère le montrer, en effet, irrésistiblement la plaine. Si les Gaulois sont dans la plaine, comme le proclame l'air populaire travestissant la célèbre marche lorraine de 1892, on se doute que ce n'est pas seulement pour y boire de la cervoise. Sur un mode moins léger, mais tout aussi symbolique, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 16, verset 16, précise que la bataille d'Armageddon, signal de la fin des temps, se déroulera dans la plaine de Megiddo et la plaine toute proche d'Esdraélon. Penser la plaine, c'est donc moins isoler un milieu naturel spécifique de l'action guerrière que renvoyer plus largement à l'idée d'une lisse commune à toutes les grandes batailles. Quelle affaire terrestre décisive ne s'est pas déroulée dans une plaine ? 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, Alexandre conquiert l'Asie à 20 ans en livrant bataille dans la plaine de Gaugamel dans le nord de l'Irak actuel. C'est sur une plaine de Champagne, celle des champs cataloniques, qu'Aetius, le dernier des Romains, sauve les Gaules en arrêtant en 451 les Huns d'Attila. C'est dans une plaine, le 27 juillet 1214, que Philippe Auguste rassemble la nation française à la faveur de l'éclatant triomphe de Bouvines. Le 15 juin 1389, c'est au champ des Merles de Kosovo-Polje que la Serbie perd pour 400 ans son indépendance face aux Turcs. Et enfin, dernier exemple, le 13 septembre 1759, c'est la bataille dite des Plaines d'Abraham, première bataille de Québec, qui sanctionne la malheureuse perte du Canada français. De ces exemples décisifs, et vous me pardonnerez, j'espère, osera-t-on dire, l'histoire militaire est pleine. Ces quelques aperçus ne m'empêchent pas de constater que, dans le cas précis du sujet qu'on m'a demandé de traiter, abondance de biens nuit. À étudier le programme de cette journée, je dois en effet à la vérité d'avouer que j'envie beaucoup mes camarades et collègues chargé de traiter de sujets bien délimités, comme la guerre en montagne, la guerre en forêt, sur les littoraux. Tout ceci est bien cadré. En septembre 2013, la revue Fantassin, revue de très haute tenue, consacre son numéro 31 au milieu difficile, du point de vue tactique, du point de vue opératif. Il y est surtout question, en réalité, de montagne et de forêt équatoriale. Ni le Centre de Doctrine et d'Emploi des Forces, le CDEF, ni le Centre Interarmé de Concept, Doctrine et Évaluation, le CICDE, ni la revue Fantassin en question, n'ont jamais disserté spécifiquement de la guerre en plaine. Dans le FT-04 de l'armée de terre de 2011, de nombreuses pages sont consacrées au mode tactique de la manœuvre terrestre, offensive, défensive, sécurisation et assistance, ainsi qu'aux fonctions opérationnelles terrestres d'engagement, contact, appui, appui à l'engagement, influence. Mais dès qu'il s'agit de préciser le cadre physique de l'action, les caractères spécifiques de certains engagements, comme ce qui donne son titre à la dernière partie du deuxième chapitre du FT-04, eh bien, il n'y a pas de plaine. Seulement la ville, milieu difficile évidemment pour l'action militaire, la forêt, le désert, la montagne. Alors, je vois venir les protestations éventuelles du colonel Noulens, chargé du désert, ou de Monsieur Kisfi, qui va nous parler des steppes. Et il pourrait, à bon droit, estimer partager avec moi le désagrément de devoir embrasser des milliers de kilomètres et les infinies perspectives d'un horizon plat et non borné et trouver mes plaintes injustifiées. Distinguons. Que le désert et la steppe soient infiniment étendus n'en fait pas moins des milieux naturels spécifiques et donc justifiables d'un commentaire ordonné sur les plans tactiques, opératifs, stratégiques. C'est si vrai que nous disposons, à la vérité, depuis janvier 2013, d'une doctrine concernant les zones désertiques et semi-désertiques disponibles dans le document EMP 20-440 du CDEF de l'armée de terre. Nous pouvons par ailleurs dénombrer la vingtaine de grands déserts mondiaux, la ceinture steppique de la planète, elle, est relativement bien localisée. Mais qui a déjà dénombré les plaines du monde ? Impossible. Le Larousse du XXe siècle nous indique qu'une plaine est une grande étendue de pays unis. D'autres dictionnaires sont moins généraux, sans pour autant être plus généreux. Plaine, zone de terre étendue et large, quasiment sans arbres, avec une végétation d'arbustes, généralement d'une élévation basse. Notons enfin que dans les plaines, pour compliquer encore notre tâche, peuvent être rangées de nombreuses sous-catégories géoclimatiques. Il existe ainsi des plaines d'altitude ou altiplano, des plaines alluviales, des plaines d'épandage, des plaines deltaïques. Et le colonel Noulin sera ravi de savoir qu'il existe des plaines désertiques, comme celle de la Isma, près de Dat el Hadj, à 608 km de Damas et à 691 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le professeur chargé des steppes n'est évidemment pas sans savoir que le créateur de toute chose a même prévu des plaines steppiques, comme celle du Honna en Algérie. En bref, géographiquement omniprésente, climatiquement polysémique, stratégiquement allégorique, la plaine est un défi aux commentaires sur la guerre. Donc, comment suivre le fil rouge de cette table ronde qui est celui de l'adaptation aux contraintes naturelles, qui donne son nom à notre discussion, lorsqu'il s'agit d'un cadre aussi divers, la plaine. Donc, pour apporter une réponse, j'ai décidé de séparer ma plaine en deux champs. D'une part, le champ allégorique, duquel peuvent être tirées quelques observations liminaires sur le plan politique et symbolique, ce que j'ai déjà commencé à faire un tout petit peu en introduction, et d'autre part le champ opérationnel, c'est-à-dire la plaine comme compartiment de terrain, qui nous renvoie à un commentaire tactico-stratégique plus concret. Le premier champ repose sur une idée structurante, celle de la convergence cinétique de forces armées en terrain ouvert, à la recherche d'un taux de rendement politique élevé par rapport aux effets tactiques mis en œuvre. Le deuxième se caractérise par la mise en valeur du couple linéarité-lacunarité. La synthèse de ces deux aspects permet éventuellement, je l'espère du moins, d'éclairer stratégiquement l'immensa majestas des plaines mondiales sur la diversité stratégique desquelles le soleil ne se couche jamais. Donc, premier point, la plaine comme champ de bataille allégorique ou symbolique. Il nous suffit de songer à des associations lexicales rituelles telles que « champ de bataille », « campagne militaire », pour que nous soit immédiatement suggéré un lien logique entre la guerre dans son ensemble, en tant qu'affrontement violent de volonté politique, et la plaine, allégorie du champ clos destiné à être témoin de ce choc. Pour ce qui nous concerne ici, la plaine, le champ, ne sont pas la guerre, mais le saltus latin, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'ortus et la silva, un espace spécifique et neutre, un plan, aux deux sens du terme, un plan, situé aux lisières du cultivé et du sauvage, du raisonné et de l'instinctif, une parfaite image, en somme, de ce qu'est la guerre elle-même. Lieu marqué par l'affrontement, pour l'affrontement, la plaine renvoie à la symbolique stratégique la plus profonde, celle du duel, mais aussi la plus élevée, celle de la décision, du commandement en armes. C'est sur le champ de bataille, face à l'adversaire, que se donne à voir le stratège, c'est-à-dire celui qui maîtrise, selon le terme allemand, le Feldherrkunst, c'est-à-dire l'art du maître du champ de bataille. Dans la tradition militaire française, d'ailleurs, c'est cet hommage à la capacité de commandement que traduit la batterie au champ, celle du pas ordinaire, qui sert à rendre les honneurs au Saint-Sacrement, à Sa Majesté, aux princes, grands dignitaires, ministres, maréchaux, grands officiers militaires ou civils et généraux en chef. Ainsi que nous le précise le fascinant manuel d'infanterie au résumé de tous les règlements, décrets, usages et renseignements propres aux sous-officiers de cette armée dans sa troisième édition de 1811. Auchan existe toujours aujourd'hui pour annoncer l'arrivée effectivement des généraux en chef. La plaine dans la culture militaire européenne est donc prédestinée à être le lieu par excellence où se vide une querelle armée. Lorsque des armées entrent en campagne, que cherchent-elles, sinon un lieu propice pour déployer leurs troupes et mesurer leurs forces? C'est pourquoi cette communication, au fond, ne peut s'insérer dans cette table ronde que de manière contre-intuitive. La plaine ne doit pas être définie, à mon sens, par les contraintes naturelles qu'elle exerce sur l'art de la guerre, mais tout au contraire par l'effacement des contraintes qu'elle procure, en raison des possibilités de déploiement, d'étalement, de souplesse qu'elle offre à la manœuvre. De la plaine de Troie à la plaine de la Marne, la logique est la même pendant 10 000 ans. Sur le plan tactique et opératif, la plaine est l'espace par excellence du possible manœuvrier. C'est la raison pour laquelle le rôle de la cavalerie, rapide, réactive, foudroyante, est considéré comme décisif en plaine. Il l'a toujours été. Une armée réglée, entraîné à la manœuvre, bien équipé, aura avantage à attirer son adversaire en pleine, là où sa science supérieure du combat lui permettra de déployer un dispositif rodé et articulé pour l'emporter. Un adversaire moins discipliné, moins apte à la conduite articulée des unités, ne disposant pas de cavalerie, aura au contraire avantage à attirer l'appareil militaire dominant dans un espace compartimenté ou coupé, comme on le dit au XVIIIe siècle, pour rééquilibrer l'affrontement par l'application de la dispersion, de la lacunarité et du principe de surprise. C'est ce que comprend Arminius en 9 après Jésus-Christ et qui lui permet de triompher des 17, 18 et 19e légions de Varus à Teutobourg. Ça, ce n'est pas compris en revanche par Saddam Hussein en 1991 qui n'anticipe pas la tempête du désert qui va s'abattre sur lui. On ne lutte pas en pleine contre un adversaire supérieurement équipé ou entraîné. Dans l'histoire militaire, les généraux disposant de moyens inférieurs se retrouveront souvent d'ailleurs écartelés entre deux alternatives. Tenir la plaine, comme on dit, à leurs risques et périls, ou s'engager en terrain difficile. C'est ce qu'on trouve par exemple chez Plutarque, lorsqu'il traite la biographie de Lucullus. Il rapporte que ce dernier cherche à vaincre le roi Mithridate et, je le cite, « il craignait de tenir la plaine parce que les ennemis lui étaient supérieurs en cavalerie. D'un autre côté, il n'osait se risquer dans le chemin des montagnes, qui était long, couvert de bois et difficile. » De ceci, on peut déduire, pardonnez-moi, que la plaine, elle, ne ment pas. À condition d'y attirer l'adversaire, elle est bien l'espace de la décision, le lieu où la combinaison des forces morales et des savoir-faire guerriers révèle la réalité des rapports de force. La décision tactique est emportée face à face, par le choc, la manœuvre et le feu, pour reprendre les catégories du colonel Daniel Reichel. De là l'équivalence entre le terme géographique « plaine » et le terme stratégique « champ » de bataille. Celui qui rompt les rangs quitte le champ, il concède la victoire à l'adversaire. Dès lors, celui-ci contrôle l'espace plan et cultivé dans lequel sont généralement installés les centres de pouvoir et de richesse, villes, agriculture, industrie. D'où l'importance d'insister, de revenir sur la signification de cette expression pour la stratégie, pour l'art de la guerre, tenir la plaine. Celui qui tient, c'est-à-dire qui contrôle la plaine, manifeste sa supériorité guerrière, mais aussi politique, davantage que celui qui se retranche dans un nid d'aigle, se dissimule au désert ou se musse au fond des forêts. C'est le sens de ce que l'on retrouve exprimé par Shakespeare dans Le Roi Jean, à l'acte 5, scène 1, lorsque le bâtard Philippe Falconbridge exhorte Jean Santerre à se porter au-devant des Français pour affirmer sa souveraineté et redonner confiance à son armée. « Allons, brillez comme le dieu de la guerre quand il se prépare à tenir la plaine. Montrez-vous plein d'audace et d'une ambitieuse confiance. » Donc le lien allégorique et symbolique entre la guerre et la plaine est réel. Et après l'avoir rappelé assez rapidement, j'en viens à la question pivot de cette communication. Pourquoi, alors que nous venons de montrer la centralité de ce rapport symbolique entre la guerre et la plaine, doit-on se résoudre à constater que la guerre évite aujourd'hui la plaine? La guerre actuelle, elle se joue dans la ville de Bagdad à Kobané. Elle se joue dans la forêt de la Colombie, l'action intégrale des forces colombiennes aujourd'hui, aux Philippines, dans la montagne de l'Afghanistan à la Tchétchénie. Mais il est devenu finalement assez rare qu'elle descende dans la plaine. Pourquoi? Ça nous amène à... Deuxième point de cette communication, c'est la plaine, non plus comme champ allégorique et symbolique, mais comme champ de bataille opérationnel. Tant que l'articulation des campagnes au niveau opératif n'atteint pas la décomposition complexe qu'elle connaîtra à partir du XVIIIe siècle, eh bien, vaincre sur le champ correspond à vaincre politiquement en une fois et en un lieu. Sur les champs ouverts de Hastings, de Crécy, ce sont des nations, et pas seulement leur armée, qui tombent en un seul choc, en un seul lieu. Ce sera encore vrai des siècles plus tard, à Sadova, par exemple, en 1866. La plaine reste donc très longtemps le lieu où le rapport de force tactique se convertit quasi immédiatement en rapport de force politique décisif, que ce soit à l'âge du choc, de la manœuvre, et au début au moins de celui du feu. Ce qui se modifie peu à peu entre ces trois âges, c'est la longueur des fronts, qui se ressent du développement de la mousqueterie, puis de l'ordre mince qui va maximiser la puissance de feu. Michel Fortman, dans ses « Cycles de Mars » paru chez Economica il y a quelques années, qui cite Delbrück pour l'occasion, note qu'à Azincourt en 1415, le front s'étend sur 730 mètres, donc nous sommes au sens propre dans un champ. À Breitenfeld, en 1631, ce front atteint 3 km, donc nous sommes sur un ensemble de champs, c'est-à-dire sur une plaine. On ne s'entend plus, mais on se voit encore. À Leuthen, en 1757, l'armée autrichienne s'étale cette fois-ci sur 8 km. La ligne d'horizon est coupée, les unités sont hors de vue, l'ère des campagnes, au sens propre, peut commencer. C'est-à-dire l'application d'une manœuvre savante échelonnée dans l'espace et dans le temps, combinant les théâtres et variant la concentration et la dispersion pour imposer son rythme à l'adversaire. Cette décomposition, pour des raisons techniques en particulier, conserve cependant à la plaine son rôle central dans l'économie opérative de la campagne et dans l'économie stratégique de la guerre. C'est en effet en terrain ouvert que la manœuvre, le choc frontal, la gestion de la puissance de feu vont être perfectionnées, et perfectionnées en particulier par les Européens. Et l'aboutissement de cet investissement de longue durée, combiné avec la montée en puissance des effectifs et l'industrialisation des armements, c'est bien une domination sans partage du champ de bataille ouvert, du champ de bataille plan, par les armées européennes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Des guerres napoléoniennes à la guerre du Golfe récente, le combat donc en terrain ouvert a consacré de manière écrasante la supériorité des forces occidentales et particulièrement à l'époque contemporaine de celle des Américains. L'expertise logistique, la capacité à imposer le rythme de la manœuvre et une puissance de feu dissymétrique sont les bases de cette supériorité qui perdure encore, comme la première séquence de la seconde guerre d'Irak, chevauchée fantastique à travers un espace plan, à travers une plaine désertique, nous l'a montré en 2003. La capacité à dominer le plan strié de l'espace terrestre s'est doublée d'une domination du plan fluide de l'espace aérien pour donner naissance à une capacité de manœuvre aéroterrestre combinée, voire intégrée, extrêmement efficace sur le plan conventionnel et surtout trouvant son plein rendement en plan ou en terrain ouvert. La conséquence, cependant, c'est que ce combat en terrain ouvert, sur la plaine, a donné finalement naissance à une dialectique conflictuelle fermée. La plaine s'étant retrouvée, au bout d'un long cycle de confiscation de l'art guerrier par l'Europe, totalement dominée par un appareil militaire culturellement situé et techniquement dissymétrique, il ne peut plus, à terme et en apparence, y avoir duel, puisque ce que l'on appelle le terrain ouvert est désormais techno-dominé, unidimensionnellement, par un groupe d'États que nous pourrions tout à fait désigner collectivement comme celui des puissances cataloniques. L'exemple canonique, c'est évidemment Tempête du désert. La démonstration de force, celle d'un Erland Battle maîtrisé, est totale. Les unités irakiennes sont balayées par la puissance aéroterrestre américaine. Les chasseurs de chars américains à 10 disposent aisément des colonnes blindées irakiennes. La coalition fait des centaines de milliers de prisonniers. Et chez les Américains, le débriefing de cette séquence donnera naissance à la révolution dans les affaires militaires et surtout à cette déclaration en 1999 de George Bush, le fils, qui semble à elle seule résumer les ambitions de la RMA comme de la transformation. La meilleure façon de maintenir la paix, assure-t-il, c'est de redéfinir la guerre selon nos propres termes. Et les adversaires vont l'entendre en retournant cette déclaration. Puisque la grande puissance catalonique domine le champ, selon ses propres termes, l'espace ouvert, et semble vouloir continuer à le faire, eh bien alors la seule solution, c'est de contester ces termes. Et ça ne va pas être neutre pour notre objet, puisque réifié par la maîtrise des réseaux, la supériorité aérienne, la puissance mécanisée occidentale, le champ ouvert, la plaine, deviennent des lieux stratégiques vides, car prévisible. Le vainqueur est connu à l'avance. En conséquence, les États ou groupes divers qui ont la volonté de contester la politique des puissances cataloniques n'ont eu, depuis un siècle environ, et à de rares exceptions, d'autres solutions que de porter la guerre en terrain difficile, c'est-à-dire, au sens propre, hors champ. C'est ce qu'on pourrait appeler le choix d'Arminius, ou le paradigme de Teutobourg. Il est relativement payant si l'armée, entre guillemets, catalonique, s'entête à appliquer ses savoir-faire conventionnels sur un terrain inadapté. Alors, le levier égalisateur des contraintes de terrain rejoue à plein et l'interaction du duel tactique et opératif peut reprendre. De là, la montée en puissance des guerres irrégulières depuis 15 ans qui déjouent la linéarité et le plan par la lacunarité et donc ces espaces plans par un surinvestissement dans les espaces triés. Et de notre côté, il a bien fallu que nous nous adaptions à cette nouvelle configuration qui faisait de la guerre en pleine un lieu vide sur le plan opératif après 91, pour les raisons que l'on vient d'évoquer. En 86, lorsque le gouvernement français commande les chars Leclerc, lorsque le char Leclerc reçoit son nom de baptême, on en commande 1500 exemplaires, 86. En 2002, la cible s'est effondrée à 400 unités. Entre les deux dates, la guerre en pleine a été assimilée à un mode opératif de guerre froide, le combat centre-Europe, péché suprême, hein, en termes physico-financiers ou budgétaires. Donc, et le char, système catalonique par excellence, en subit de plein fouet les conséquences capacitaires et budgétaires. Sur le plan doctrinal, cette éviction relative de la guerre en pleine à partir de 1991 a aussi de grandes conséquences. Parce qu'une forme décentrée de confrontation, soit un dérobement à la logique catalonique, nous est imposée par nos adversaires ces 15 dernières années, nous avons réagi en développant une réflexion conceptuelle sur la contre-insurrection, l'approche indirecte, les stratégies obliques. L'effort doctrinal tente à ce moment-là de repenser les terrains difficiles, couper les terrains urbains, c'est-à-dire un espace d'imbrication permanent entre les forces bleues et rouges, entre l'ami et l'ennemi. Les thèmes dominants deviennent ceux de la guerre au milieu des populations, de la guerre hybride. Un manuel occidental d'infanterie, axé sur le combat en Centre-Europe, tel l'INF 202 qui était ma bible de jeune officier quand j'étais à Saint-Cyr au début des années 2000, eh bien, pouvait multiplier les schémas clairs de réduction de résistance isolée et organiser de manière rigoureuse la manœuvre selon un certain nombre de cadres d'ordre rigides. L'initiative, le coup d'œil, l'intuition des chefs et des soldats demeuraient indispensables, c'est vrai, mais l'environnement dans lequel ils progressaient ou agissaient était globalement cohérent, comme en témoigne le concept d'ailleurs de ligne de contact, de ligne de front. Ce qui est vrai pour l'infanterie, ce qui était vrai pour l'infanterie, l'était encore plus pour la cavalerie. Et de ce point de vue, rien ne changeait depuis la Légion romaine, qui avait fait de sa maîtrise étagée du rang et de son couplage avec le pion mobile de la cavalerie le principe même de sa force en terrain ouvert. Il est vrai aussi, pour l'anecdote, qu'au début de ces années 2000, je suis rentré à Saint-Cyr en 1996, eh bien lorsque nous entrions dans nos salles de classe pour avoir nos enseignements tactiques, eh bien ces salles de classe étaient encore décorées de posters, de grands posters, représentant les uniformes, les blindés, les grades et les manœuvres de l'armée catalonique absolue qui était l'armée rouge. Et le code opératif, de ce point de vue-là, est toujours un code culturel. Donc cette culture de guerre en pleine, fondamentalement réglée, eh bien, dans le scénario de type Centre-Europe, en terrain ouvert, elle induit des compartiments de terrain repérables, cadrés. La mêlée se fait au contact. Le choc, le feu importent beaucoup. Avant l'engagement, les forces ennemies peuvent être traitées par des feux indirects, dans une killbox, comme on dit, verrouillée. Par contraste, dans un scénario de guerre irrégulière, mené en terrain post-catalonique, donc difficile, la rapidité de déplacement des forces amies se heurte aux tactiques de dissimulation oblique de l'adversaire. La guerre prolongée en ville, dans le cadre des opérations de stabilisation, débouche sur une imbrication permanente. Donc le référentiel opérationnel, mais aussi symbolique, et c'est là, je pense, le point majeur, est brisé. Avec la disparition ou la disqualification par défaut de la plaine et du champ comme lieu d'interaction clausewitzien, la possibilité d'une décision politico-opérative se brouille. Nous renvoie donc à la première partie de cette analyse sur l'intromission ou la commiction, au sens quasi théologique, hein, de la guerre et de la plaine, du champ clos, de la lisse où se fait la décision. Donc l'estompement de la guerre en pleine n'est pas seulement une question de cadre, une question physique, elle a à voir aussi, elle nous renvoie au plan politique, au plan de la décision. En conclusion, nous sommes confrontés à une question majeure. Entre le champ de Mars, encore cette question du champ, et le camp d'Athéna, entre la dialectique basse et la dialectique haute de la stratégie, comment rétablir un lien de causation si le champ ou la plaine de Mars reste vide? Est-ce que cette aporie est définitive? Est-ce que les Gaulois doivent se résigner à quitter la plaine? En dépit des apparences, eh bien sans doute pas. Compte tenu des phénomènes de rattrapage technologique observés chez certaines puissances secondaires aujourd'hui et un certain nombre de groupes non étatiques, il est vraisemblable, contrairement à ce qui a été dit ces 15 dernières années, qu'on se dirige à l'avenir vers des affrontements de plus en plus symétriques qui nous conduiront à repenser les modèles opératifs de la guerre en terrain ouvert. Et ce qui vaut d'ailleurs pour le domaine terrestre, vaut aussi pour le domaine maritime. La très belle manœuvre de Serval, récemment, l'armée de terre française, l'armée française dans son ensemble, autre chevauchée fantastique, d'une certaine manière, quand on l'étudie sur le plan opératif, montre heureusement que l'armée française a conservé ses fondamentaux, en termes de manœuvre, sur le plan, malgré des réductions budgétaires et des rétrécissements doctrinaux qui ont pu être inquiétants, encore une fois, ces 15 dernières années. Donc la plaine n'est pas sortie de l'art de la guerre et pourrions dire en conclusion que nous n'en avons sans doute pas fini avec les rendez-vous sur le pré. Merci de votre attention.
Merci à vous pour cette très brillante communication. Ce n'était pas un piège, mais en tout cas, personnellement, je savais que ce n'était pas facile à traiter, mais vous l'avez traité un peu comme je l'avais en tête, c'est que les contraintes sont minimales. Et par conséquent, ça doit peser sur... Alors, je vais donner la parole. Juste un point qui n'est pas apparu, et pourtant j'ai été très attentif. Est-ce que la plaine favorise, n'est pas le mot, mais ne rend pas plus facile la fuite, la débandade, la panique? Est-ce que ça peut jouer?
Oui, tout à fait. Les triarii, si mes cours... Nos cours d'histoire romaine sont encore frais. Les triarii, ceux qui étaient au dernier rang, je crois que les astati sont au premier rang, on leur demandait de temps en temps, ça a été de plus en plus le cas au fur et à mesure que l'Empire romain connaissait des problèmes en termes de culture guerrière, on leur demandait de mettre un genou en terre. Pour les rendre plus statiques et pour éviter que les premiers rangs n'aient la tentation de les traverser, de revenir vers eux, de les traverser, de les passer pour s'enfuir. Et d'ailleurs, d'où l'expression en latin « tomber sur les triarii », ça signifiait arriver dans une situation où quasiment tout était perdu. Donc effectivement, l'espace est vide, l'espace est plan, l'espace est ouvert derrière, et il y a cette possibilité de fuite. Mais en même temps, il y a aussi, et les Allemands nous l'ont montré pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier Manstein, il y a la capacité sur un plan, dans une plaine, d'échanger de l'espace contre du temps, de retrouver une cohésion, de retrouver une densité, de manière à pouvoir tirer, comme le dit Clausewitz dans sa dialectique entre l'offensive et la défensive, le glaive fulgurant de la vengeance, c'est-à-dire retrouver un approfondissement, une cohésion, une densité, de manière à libérer à nouveau une énergie qui pourra réguler le choc vis-à-vis de l'adversaire, le hausser au niveau suffisant. Donc le terme que Hervé Couteau-Bégary le montre bien dans ce qu'il appelle le processus stratégique, à la fin du processus stratégique, une retraite stratégique n'est pas une fuite, ça peut être effectivement la manière de tirer ce glaive fulgurant et de retourner sur le plan en retournant la polarité des énergies. Donc ce plan, oui, peut permettre la fuite, mais il peut permettre également son contraire, c'est-à-dire le retour de l'offensive de manière positive.
Merci. Qui veut intervenir? Oui,
René Girard nous a quittés, mais je vois que son esprit est toujours là, on cite toujours l'Apocalypse. Donc il y a... est-ce que la guerre en plaine, c'est pas aussi une guerre qui a été acceptée et organisée? Et aujourd'hui, donc cette disparition de la guerre catalonique, comme tu dis, c'est pas aussi le fait que l'ennemi refuse d'engager le combat? Tu cites Serval, c'est vrai qu'il y a une magnifique chevauchée Serval, mais si mes connaissances sont bonnes, les affrontements ont principalement eu lieu en montagne, et puis dans les forêts, mais pas en plaine.
Alors effectivement, Serval se termine, tu as raison, dans la Mététaille, c'est le deuxième REP avec les Tchadiens, avec un certain nombre d'autres unités qui nettoient, il faut aller au contact, l'infanterie redevient l'arme des 300 derniers mètres, et là au sens propre. Mais c'est pas quand même oublier la manœuvre qui précède, et la manœuvre qui précède Serval, mais je pense que on pourra en discuter tout à l'heure, mais sur nos discussions évidemment sur le désert ou la steppe, la réflexion sur l'espace, le plan, l'accélération opérative jusqu'à trouver la syncope chez l'adversaire, comme dirait le général Yakovlev, elle a été rendue possible par la configuration de ce terrain à Serval, et on a retrouvé on a retrouvé la dialectique de l'équilibre à opérer entre le choc et le résultat tactico-opératif et l'élongation et de nos lignes logistiques, nos lignes de ravitaillement à Serval qui nous ramène en fait au cœur de la guerre en plaine, c'est-à-dire la gestion raisonnée de l'espace et du temps, des distances et des rapprochements. Et on est sur quelque chose qui est en fait une compétence qui est très longue et très difficile à obtenir et qui est très facile à perdre. Donc Serval, à mon avis, n'est pas une exception du point de vue de la manœuvre. Je m'avance peut-être trop, mais je pense que les savoir-faire de haute intensité, les savoir-faire de manœuvre, d'articulation d'un dispositif opératif maîtrisé dans l'espace et dans le temps, avec une planification adaptée, que ce soit pour le choc, tout ce qui est cinétique, et également pour la logistique derrière, sont des savoir-faire qu'il faut absolument conserver. On est passé près de la catastrophe ces 15 dernières années en surinvestissant dans la contre-insurrection et dans cette erreur monumentale et fondamentale qui est de croire que la nature de la guerre a changé parce que sa forme a changé, et pourtant... On a Clausewitz, le caméléon, la guerre, elle change de forme, elle ne change pas de nature, ça reste une dialectique. Et je pense que si on sait faire ce qui est difficile, c'est-à-dire justement les fondamentaux de la guerre sur l'espace plan, la manœuvre, la gestion raisonnée de l'espace et du temps, eh bien on saura faire ce qui s'incarne sur des modes dégradés, c'est-à-dire tous les savoir-faire de stabilisation, les savoir-faire de normalisation, vers lesquels on a peut-être été trop ces dernières années. Je regarde l'armée israélienne aujourd'hui, l'armée anglaise, il y a clairement, sur certains créneaux, une perte de compétences parce qu'on a oublié les fondamentaux de la manœuvre, parce qu'on a oublié les fondamentaux du choc, parce qu'on a oublié les fondamentaux du combat de haute intensité. C'est pas une question simplement doctrinale ou culturelle, c'est une question de savoir-faire et de compétences. Et donc, je pense qu'il faut à nouveau investir là-dedans. Si on regarde ça historiquement, doctrinalement, je pense que l'on est à la veille d'un rééquilibre entre la guerre symétrique ou dissymétrique, dissymétrique relative, et tout ce qu'on a appelé l'univers ou le monde des guerres asymétriques, qui est en réalité, à mon avis, un piège pour la pensée, compte tenu des résultats auxquels il a donné lieu sur le plan politique. C'est pour ça que la guerre en plaine est un sujet vraiment intéressant du point de vue de la rencontre entre l'espace et la pensée de la décision politique et l'espace de ce qui est incarné opérativement, opérationnellement. Comment, en fait, l'histoire des 15 dernières années, c'est un divorce entre les deux. On domine, on croit dominer, on change de doctrine, on s'adapte à d'autres espaces, on invente la guerre au milieu des populations, la contre-insurrection, mais on s'éloigne toujours plus d'une décision politique. Ce qui serait intéressant, c'est de retrouver le lien entre les deux, de manière à sortir par le haut, avec une vraie dialectique de la guerre, hein, comme affrontement de volonté politique par des moyens violents. Je pense que effectivement, Serval n'est pas une exception pour les années qui viennent.
Merci. Tout ça est tout à fait passionnant.
Il me semble que, et pour rebondir sur la question de Jérôme, en fait, dans le cas de Serval, les bons hommes qui sont sortis de leur repère pour aller vers le sud du Mali. Ils sont sortis parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de lutte. C'est pas parce qu'ils étaient prêts à faire une lutte symétrique, c'est parce qu'on leur avait donné à penser qu'on ne sortirait pas. Exactement. Et il y a aussi des interprétations qui disent que c'est des luttes de pouvoir au sein de leur groupe qui font que certains ont voulu s'imposer. Mais le point intéressant, c'est que malgré tout, comme tu disais, c'est humiliant d'être toujours cantonné aux angles morts, et donc il y a toujours un moment où on veut occuper le terrain, ou alors on veut créer un État, dans le cas de l'État islamique. Et c'est à ce tournant-là qu'on peut les choper, effectivement.
Il n'y a pas de succès d'année, ce n'est pas substituable. À partir du moment où on veut incarner un corps politique,
il faut tenir la place.
D'où l'importance de cette expression, en fait, sur le champ. Ouais, ouais. Sur le champ, d'ailleurs, traduit deux choses. Il y a un lieu et il y a une vitesse, il y a un espace. On dit on fait quelque chose sur le... Mais ils sont sortis de leur repère, ils sont descendus vers le sud, vers les riches plaines... vers Bamako. Pourquoi ? Parce qu'un signal avait été envoyé également. Deux mois avant, le président de la République, dans une interview à la télé, il y a trois journalistes face à lui, François Hollande, dit « il n'y aura pas d'intervention au sol ». Il le dit. Alors je ne sais plus comment s'appelaient les trois journalistes, c'était sur une chaîne... Il le dit. Donc le message est entendu, d'une certaine façon. Il n'y aura pas d'intervention au sol. Mais en janvier, en un retournement de quelques heures, finalement, les Français vont au sol. Il y a aussi tout l'aspect de la communication, du renvoi. Ça, c'est important.
De même que le faux pas de Saddam Hussein...
J'en suis navré.
Avec ta communication et celle de Benoît Durieux qui parlait de l'importance symbolique de la présence. Et la présence, effectivement, c'est pas dans le mot, c'est pas symbolique.
Mais présence et contrôle, il y a sans doute une réflexion au niveau stratégique à avoir là-dessus. Parce qu'à un moment, dans l'armée de terre, je suis ancien officier d'armée de terre, mais pour des raisons budgétaires. On est allé trop loin dans cette logique en disant il faut de la présence, donc il faut du contrôle, parce qu'il faut du contrôle, il faut aller vers la contre-insurrection, parce que c'est le contrôle et c'est la guerre au milieu des populations, il faut rester très longtemps avec beaucoup d'effectifs. C'est intéressant à partir du moment où le but politique est identifié et où on ne s'est pas donné des objectifs définis en termes moraux, donc inatteignables, donc absolus et inatteignables. On s'est donné des objectifs politiques. Si l'objectif est de démocratiser l'Afghanistan ou de libérer la femme afghane, alors on peut mettre 1 million de soldats sur un terrain qui est, etc. Ça ne servira à rien. On ne rétablira pas la linéarité, on ne combattra pas la lacunarité par des centaines de milliers de soldats, quel que soit le niveau de contrôle qu'on recherche, à partir du moment où l'objectif politique est irréaliste. Donc cette dialectique-là, elle peut être dangereuse. On est là pour incarner dans la plaine, encore faut-il que cette incarnation, elle soit légitime, c'est-à-dire qu'elle vienne de la plaine. Il y a une manière, c'est quasiment ctonien, il faut que ça sorte du sol, que ça soit de la plaine, pour régner sur la plaine. Donc quand on est dans une configuration stratégique où on est en appui 2, où on appuie A, et qu'on fait de l'assistance à une force militaire étrangère, il ne faut pas que ça dure trop longtemps pour rendre justement un degré de légitimité suffisant aux forces que l'on appuie. C'est toute la tragédie de l'Afghanistan. On est resté plus longtemps que l'armée rouge pour des résultats politiques qui sont finalement moins lisibles.